prions avant de lire l'Écriture. Éternel, toi qui as parlé face à face avec Moïse, toi qui fis crier et pleurer les prophètes, toi qui as fait jaillir les psaumes et murmurer la sagesse des proverbes, Dieu vivant qui a mis un cantique dans la bouche de la petite Marie et la confession du Christ dans celle de Pierre, par ton esprit, en cette heure, que dans les paroles des Écritures s'élève ta parole. Amen. Et je lis tout d'abord dans le livre du Deutéronome, au chapitre 34, les versets de 1 à 10. Moïse monta des plaines arides de Moab au mont Nebo, au sommet du Pisga, en face de Jéricho. Le Seigneur lui fit voir tout le pays, le Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Negev, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. Le Seigneur lui dit, « C'est là le pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à tes descendants. Je te le fais voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. » Moïse, serviteur du Seigneur, mourut là, au pays de Moab, sur ordre du Seigneur. Il l'ensevelit dans la vallée, au pays de Moab, en face de Beth-Péor. Personne ne sait où est sa tombe, jusqu'à ce jour. Moïse avait 120 ans lorsqu'il mourut. Son œil n'était pas affaibli et sa vigueur n'avait pas disparu. Les Israélites pleurent Moïse pendant 30 jours dans les plaines arides de Moab. Puis ce jour de pleurs et de deuil sur Moïse arrivait à leur terme. Josué, fils de Noun, était rempli d'un souffle de sagesse, car Moïse avait posé les mains sur lui. Les Israélites l'écoutèrent, ils firent ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse. Il ne s'est plus levé en Israël de prophètes comme Moïse, que le Seigneur connaissait face à face. Pour tous les signes et les prodiges que le Seigneur l'envoya produire en Égypte, contre les pharaons, contre les gens de sa cour et contre tout son pays, et pour toutes les choses grandes et redoutables que Moïse fit du main forte sous les yeux de tout Israël. Et je lis encore dans le livre des Actes, le texte qui est l'un des textes de l'ascension de Jésus. Cher Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé après avoir donné ses ordres par l'Esprit Saint aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec beaucoup de preuves, il se présenta vivant après avoir souffert. Il leur apparut pendant 40 jours, parlant du règne de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « C'est donc, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. » Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est un baptême dans l'Esprit Saint que vous recevrez d'ici peu de jours. Ceux qui s'étaient réunis lui demandaient, « Seigneur, est-ce que c'est en ce temps que tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître le temps ou le moment où le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, pendant qu'il regardait, il fut élevé, et la nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il fixait le ciel pendant qu'il s'en allait, deux hommes en habit blanc se présentent à eux et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à scruter le ciel ? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors il retournait à Jérusalem depuis le mont dit des Oliviers, qui est près de Jérusalem. dans le rayon de déplacement autorisé le jour de sabbat. Peut-être que celle-ci ne soit pas la première chose qu'on pense quand on parle de l'année liturgique, mais peut-être avez-vous déjà remarqué que surtout la dernière partie de l'année liturgique avance d'une manière un peu semblable aux montagnes russes. On commence avec le carême en descendant, et puis on monte avec les rameaux, l'entrée triomphante de Jésus à Jérusalem, et après on descend encore dans la nuit de la trahison, de l'arrête, et plus encore on descend avec la mort de Jésus. Et le dimanche de Pâques, on est relevé avec la résurrection. Mais on ne fait même pas attendre à nous y habituer qu'arrive l'ascension de Jésus, et Jésus nous est enlevé. Pour le dire dans une manière plus sérieuse et surtout plus précise, l'histoire de Jésus est marquée par le paradoxe. Jésus porte, dès le commencement, avec soi le paradoxe. Un être humain qui révèle Dieu, qui touche les intouchables, qui sauve les insauvables, qui aime les inaimables, qui montre la présence de Dieu au fond de son absence, quand il dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus qui meurt, mais est vivant. Qui est vivant, mais qui est absent. L'ascension, en effet, c'est le paradoxe de la résurrection. Rendu à la vie, mais enlevé, encore et durablement. Comme le disent le messager céleste le matin de Pâques, il n'est pas ici. Ils disent, il n'est pas ici, il n'est pas dans le tombeau. Mais c'est aussi vrai qu'on peut nous aussi dire, il n'est pas ici non plus. Le ressuscité est en effet absent. Le récit de l'ascension veut nous dire que Jésus n'est pas là, mais en même temps, il n'est pas disparu tout simplement. En effet, il n'y a pas des choses tout simples dans l'histoire de Jésus. Et d'autant plus qu'on est protestante, le protestantisme a embrassé la structure paradoxale de l'Évangile. On ne cherche pas de résoudre cette paradoxe ou cette difficulté. Et parfois, c'est aussi fatigant. Et on le voit en particulier dans la tradition réformée, où l'ascension a été interprétée dans une façon radicale comme la négation de quelconque tentative de localiser, de renfermer Jésus quelque part ici-bas. Et donc, une première signification de l'ascension, c'est de l'ascension, et d'être un utile avertissement, comme le dit Luc même d'ailleurs. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après, parce qu'il n'est plus là. Serait certainement beaucoup mieux, serait très désirable qu'il fût là, mais il n'est pas comme ça. Donc, dans un certain sens, méfiez-vous des imitations. Puisqu'on a le récit de l'ascension, personne n'est autorisé à localiser Jésus quelque part. Personne n'est autorisé à localiser le Christ quelque part. Surtout quelque part dans une manière exclusive. Il est ici et il n'est pas là. Personne ne peut dire qu'il est quelque part et qu'il n'est pas quelque autre part. Personne ne peut dire que c'est ici, chez moi notamment, qu'on peut le rencontrer et pas ailleurs. Personne n'est autorisé à permettre ou empêcher la rencontre avec lui. Personne ne peut disposer de Jésus parce qu'il est indisponible, il est au ciel. très bien, cela a un sens, je trouve, libératoire. Mais cela signifie aussi que toute relation est impossible avec Jésus. Où est Jésus, en effet? Quand j'étais au Cameroun, à la faculté de théologie de Yaoundé, il y avait un tout petit enfant, il s'appelait Gus, en effet c'était le raccourci du nom. Il était le fils d'un collègue étudiant à la faculté, et il était très curieux de ses tontons, comme on disait, ses tontons venant d'ailleurs, ses tontons blancs. Et surtout, il était très intéressé de cette charmante femme blonde qu'il cherchait d'atteindre dans l'écran de l'ordinateur. Mais aussi, quelque chose de typique qu'il avait, c'était que quand on lui demandait, par exemple, « Où est ton ballon ?» Il avait toujours son ballon avec lui. S'il répondait « C'est loin !» Cela voulait dire qu'il avait perdu. C'était tellement loin qu'on ne peut pas le rejoindre. Et les réformateurs, surtout du côté réformé, Calvin, Farel, disaient quelque chose de semblable de Jésus, mais seulement de semblable, pas la même chose en effet. Bien sûr avec des différences. Jésus est loin, non comme le ballon perdu de Gousse, mais il est loin comme le soleil, qui est à une distance pour nous inatteignable, mais lui, le soleil, il nous atteint. Il nous éclaire, il nous réchauffe, il rend notre vie possible. Jésus aussi, tout en étant absent, nous fait percevoir tout de même quelque chose de sa présence. Mais cela arrive comment? Puisque je suis un étudiant de la Bible hébraïque, je me méfie un peu de similitudes astrales, qui dans l'Ancien Testament sont toujours quelque chose d'un peu risqué, donc je laisse de côté le soleil, et je préfère jouer la sécurité avec Moïse, avec le texte qu'on a lu dans le Deutéronome. Moïse, lui aussi, est enlevé au peuple d'une manière un peu extraordinaire. Il disparaît sans laisser un tombeau qui risquait de devenir lieu de piété superstitieuse. Mais il laisse quelque chose, il laisse la Torah de Moïse. Torah qu'on traduit souvent comme loi, mais qui est en effet l'enseignement de Moïse. Ce qui dit le texte du Deutéronome qu'on a lu est très clair. Il n'y a personne ici sur la terre qui soit comme Moïse. Et jamais il y aura. Donc pas la peine de la chercher. Ce qu'il y a de plus proche à Moïse, c'est son enseignement, sa Torah. Cet enseignement qui, comme dit le Deutéronome dans un autre chapitre, n'est pas dans le ciel ou de l'autre côté de la mer, mais au contraire, est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu le mettes en pratique. Ce qui reste après Moïse, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, de surnaturel, de miraculeux. Ce n'est pas non plus quelque chose d'absolu, d'intouchable, d'incompréhensible, d'inquestionnable. C'est au contraire un écrit, un livre qu'on peut étudier, questionner, qu'il faut interpréter. Et Jésus, le Nouveau Testament est tout à fait d'accord avec l'Ancien sur le fait qu'il n'y a plus paru personne comme Moïse, sauf Jésus, qui est l'exception absolue à toute norme. Et Jésus, lui aussi, l'a fait comme Moïse. On pourrait dire que c'est le même Dieu qui fait la même chose, dans les deux cas. Il nous a laissé son enseignement. Il nous reste de Jésus ce qu'il a fait et ce qu'il a dit. En effet, le récit, le témoignage de ce qu'il a fait et de ce qu'il a dit. Et en effet, ce n'est pas par hasard que ceux et celles qui empruntent son chemin sont appelés disciples, élèves. Donc ceux qui vont étudier son enseignement, ce qu'il nous a laissé. Et ce que Jésus nous laisse quand il est dérobé à nos yeux, comme dit le texte, c'est quelque chose qui détermine de nouvelles possibilités de vivre dans notre temps, qui est le temps de l'absence de Jésus. C'est le récit des Actes qui nous montre comment l'ascension change les perspectives des disciples. Un premier changement est mis en place par cet homme vêtu de blanc qui arrive, qui réoriente leur regard. Ils regardaient le ciel et après ils vont regarder encore la terre. Et plus encore, ils ne regardent plus le domaine des esprits dans le ciel, mais ils retournent à la ville où va bientôt commencer une nouvelle histoire. L'histoire de l'Église, l'histoire de la communauté des disciples. L'ascension n'invite pas à regarder individuellement le ciel, ne propose pas une fuite du monde dans un monde qui se veut de pur esprit. Au contraire, avec l'ascension commence un chemin qui est un chemin incarné dans le corps de la communauté, un chemin qui est plongé dans la réalité du monde, dans sa socialité, là où les gens vivent leur vie, leur joie, leur peine, leurs projets et leurs échecs, leurs tragédies individuelles ou collectives, aussi leurs espérances. Ici commence un chemin. En effet, dans les derniers mots de Jésus, il y a un changement du temps à l'espace. Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Demande le disciple. Mais Jésus répond : ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment. C'est-à-dire, ce n'est pas question de temps, de quand va arriver, mais jusqu'où s'étend déjà le royaume, le règne de Dieu. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est là que les disciples sont envoyés à témoigner selon ce que Jésus a enseigné. Et voilà encore un autre changement de l'attente à l'action. Jésus ne dit pas « il ne faut pas attendre le règne, il faut aller le voir », mais il dit « vous irez le montrer ». Ça, c'est témoigner. C'est vivre le règne qui est déjà là, c'est vivre l'enseignement de Jésus parce que c'est possible. En effet, et voici encore un paradoxe, l'ascension, elle est donne de cette possibilité. La vie que Jésus nous a promise, que nous a montrée, ce n'est pas quelque chose qui doit venir du ciel, ce n'est pas quelque chose que Dieu doit faire à notre place, mais c'est la possibilité qui nous est donnée. Jésus nous est enlevé et la possibilité de vivre cette vie nous est donnée en échange. Amen.